7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, génération J'ai le droit. Ils sont adolescents ou tout jeunes étudiants. Ils ne rêvent pas de changer le monde, non, pas du tout. Ce qui les occupe principalement, c'est leur nombril et le droit de défier l'autorité pour se réaliser, être libre pour soi-même, pas pour l'humanité. Alors ces enfants nés sont-ils le fruit de démocraties décadentes ou tout simplement des innovations technologiques, réseaux sociaux et compagnie? Si vous avez ce spécimen de jeunes sous votre toit, vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, histoire de débattre et de partager également vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Avec nous, Barbara Lefebvre, professeure dans le secondaire. Vous publiez justement Génération J'ai le droit chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Votre cri d'alarme est très centré sur la culpabilité de l'école. Vous nous direz comment vos élèves se sont transformés au fil de votre carrière. Vous n'êtes pas d'une nature optimiste pour votre institution, mais plutôt dans la théorie du déclinisme. Vous aviez déjà publié au début des années 2000 les territoires perdus de la République. Alimata Fofana également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié Mariama, l'écorché vive chez Cartala. Vous êtes venu il n'y a pas très longtemps à ce micro, le mois dernier, pour être très clair pour nos auditeurs. Mais c'était pour parler de l'excision. Et votre récit semi-autobiographique est aussi le combat, on n'en avait pas du tout parlé dans l'autre émission, le combat d'une jeune Française, d'une famille de 6 enfants, de parents sénégalais, scolarité un peu ghetto. Et pourtant, vous racontez comment l'école, ou plutôt comment le savoir, a fait de vous une femme libre. On parlera de votre parcours, de votre relation à l'école. Et puis, vous êtes aujourd'hui enseignante de lettres, peut-être pas pour très longtemps, je ne sais pas, dans un collège de région parisienne. Et c'est intéressant, évidemment, de confronter votre parcours, votre regard d'enseignante au constat et à l'analyse de Barbara Lefebvre. Je vous lis quelques messages sur Facebook. Norbert, qui est professeur... à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voici ce qu'il nous dit. En réalité, les élèves ne démolissent pas l'école pour rien. La plupart ont des difficultés à accéder aux connaissances. Ils accumulent les lacunes année après année. Ça renforce leur sentiment d'impuissance qui se traduit par des violences scolaires. Violences contre quelques-uns qui s'en sortent. Violences contre son prof qui, lui, impose un savoir inaccessible. Violences contre l'école qui le pousse vers l'échec et finit par le jeter dans la rue. Et enfin, violences contre la scolarité, contre la société. Contre la société et les autorités qui ne sont pas en mesure de lui procurer un emploi pour réaliser ses rêves. Voilà, je rappelle quand même à Norbert que dans son pays, le Burkina Faso, la proportion d'enfants qui ont enfin accès à l'école a augmenté de plus de 15% en 15 ans. Ça, c'est pour le versant optimiste, mais finalement, c'est exactement le genre de témoignage qu'on pourrait lire dans votre livre, Barbara Lefebvre, en France.
Oui, enfin, d'une certaine façon, je suis pas tellement dans la condamnation à strictement parler de l'école en soi, je veux dire du projet de l'école au sens philosophique du terme. Je dis justement que c'est parce qu'elle a renoncé en grande partie à sa mission centrale qui est la transmission de savoir et la transmission d'une culture exigeante que l'école est là où elle en est aujourd'hui. Et qu'en particulier en Occident, en France, le développement de l'individualisme et en quelque sorte la tyrannie des pulsions individuelles corrélé justement à cette crise du consentement, à cette crise de l'autorité, a fini par avoir les conséquences qu'on voit. Mais d'une certaine façon, je serais assez d'accord avec Norbert, le déracinement culturel, il produit d'une part de l'ignorance, et ça c'est assez positif hein, pour l'ultralibéralisme qui veut effectivement une des démocraties moutonnières, mais elle produit aussi effectivement de la violence sociale. Et c'est pourquoi moi j'en appelle à un retour des fondamentaux à l'école, c'est-à-dire une véritable école de la culture, une école des savoirs. Or, quand on renonce à transmettre en particulier la langue, qui est quand même notre outil d'émancipation et notre outil d'entrée, pas seulement dans la culture...
D'accéder à la pensée tout simplement.
Voilà, accéder à notre propre pensée et à la capacité de l'exprimer. Quand vous n'êtes pas en capacité d'exprimer votre pensée, vous êtes inévitablement rejeté dans une forme de violence.
Eh bien, Youcal ne dit pas autre chose. Il est à Brazzaville et nous dit « Dans mon pays, sûrement un enseignant lui aussi, dans mon pays, la notion d'éducation scolaire est devenue le lieu d'abrutissement par excellence. La culture de la médiocrité ayant pris le pas sur la vertu et le mérite, les parents et les établissements scolaires se rejettent mutuellement la responsabilité de cette dérive. » Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Avant qu'on commence la discussion sur cette génération J'ai le droit, Limata Fofana, Barbara Lefèvre, j'aimerais avoir votre réaction sur la réforme du bac qui a été annoncée hier. Vous vous souvenez, il y avait un ancien ministre de l'éducation, Xavier Darcos, qui disait le bac c'est comme la tour Eiffel, ça sert à rien mais c'est impossible à démonter. Aujourd'hui, la réforme est annoncée, plus que 4 épreuves finales, contrôle continu renforcé, un grand oral, la fin des séries. Qu'est-ce que vous en pensez, Limata Fofana?
Qu'est-ce que j'en pense? Faudrait que je prenne le temps de réfléchir à cela. Le fait de réformer le bac, je ne suis pas forcément contre. Je pense que travailler en continu pour les élèves, donc on est dans une progression sur le temps long. Je pense que c'est assez intéressant de travailler là-dessus. Sur les filières, par contre, je regrette qu'à partir de la première, les élèves ne puissent pas choisir, soit ils veulent faire S, ES ou littéraire. Ça, pour moi, c'est un peu regrettable. C'est quand même l'identité française, je dirais. Il y a quand même une spécificité. Ouais,
ils feront des choix de matières plus importantes que d'autres et qui compteront plus que d'autres pour le bac.
Oui, mais je trouve quand même... Moi, c'est ça que j'appréciais, c'est la spécificité dès la première. Et le contrôle continu, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on travaille sur le temps long et non uniquement... lors des épreuves.
Barbara Lefèvre, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez...
Déjà, c'était une promesse de campagne de M. Macron. C'était pas l'alpha et l'oméga des projets de M. Blanquer. Quand on lit les ouvrages de Jean-Michel Blanquer, la réforme du bac, c'était pas la chose la plus importante pour lui. Donc il réalise une promesse de campagne du président de la République, c'est son job. Personnellement, je n'ai pas vraiment un avis tranché sur la question. Très bien qu'il réforme le bac. Pour moi, la question, c'est encore. Pour moi, c'est ces réformes-là.
C'est une réforme énorme sur le plan politique.
Ah, vous trouvez? Non, moi, je trouve que c'est encore une rustine de plus.
Ah bon?
C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, c'est OK, mais quel genre de bachelier on va former? C'est-à-dire, ils vont. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. On continuera à monter dans les taux de baccalauréat. Oui, 90% de bacheliers. Très bien, mais quel genre de bac? Est-ce que le bac qui en sortira sera revalorisé et est-ce qu'on aura vraiment un bac des savoirs, un bac de la culture? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et là où je pense que le ministre doit mettre le paquet, et je pense qu'il le sait et il le dit souvent, c'est la maternelle et le primaire. Parce que c'est là que tout se joue. La formation des enseignants, la maternelle et le primaire. Il y aurait même la petite enfance, sur laquelle je pense que l'école...
C'était le cas avec la réforme du dédoublement des classes
oui,
en CP.
Oui, mais pas le dédoublement des classes, c'est juste
contre.
Pour les ZEP. Hein. Oui. Donc
c'est
juste pour 20% des enfants. Oui. Alors que, d'une certaine
quand
façon...
C'est là que se concentrent aussi beaucoup de problèmes.
De nombreuses difficultés.
De nombreuses difficultés, mais pas que. Moi, j'ai enseigné dans des établissements ZEP et j'ai enseigné ensuite dans des établissements où il y avait une certaine mixité sociale. J'avais des élèves catégorie socio-professionnelle, classe moyenne, voire parfois classe supérieure, où les difficultés de lecture-compréhension étaient énormes. Donc, bien entendu, en ZEP, c'est majeur. C'est massif. Donc là, effectivement, quand vous avez quasiment 60% d'illettrés en fin de CE1, il faut faire quelque chose. Mais le problème de l'illettrisme, c'est-à-dire de la difficulté à comprendre ce qu'on lit, il est massif. Or, le problème aujourd'hui, c'est pas en réformant le bac qu'on va résoudre ce problème-là. C'est en réformant profondément la façon dont on enseigne le français, la revalorisation du français. Et moi, par exemple, je suis pour qu'on rende obligatoire, par exemple, l'enseignement du latin en 6e dans toutes les écoles de la République. Parce que là, et même peut-être dès le CM2, on pourrait véritablement ancrer cette connaissance fine de la langue française qui manque aujourd'hui à nos élèves. Donc le bac, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga du système.
Mais quand vous disiez par rapport au REP, le fait que maintenant en classe de CP, les classes sont dédoublées, je crois aussi qu'en REP, souvent les parents n'ont pas accès au savoir. Quand vous faites la différence entre les classes moyennes, quand vous maîtrisez un minimum la langue française, vous êtes en mesure de transmettre et d'aider vos propres enfants. Moi, de ce que j'ai vu en REP, souvent, les parents sont incapables d'aider leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu dédoubler les classes. Moi, je pense que c'est une réforme nécessaire et
sur
bonne
ce point,
là-dessus.
Et je voudrais qu'on en vienne quand même à notre sujet. Cette génération, j'ai le droit d'ailleurs que vous décrivez, Barbara Lefèvre, est-ce que c'est une génération donc très individualiste? On va y revenir. Comment finalement vous avez pris conscience de cette génération et est-ce qu'elle est tout milieu confondue, vous diriez?
Ah oui, elle est tout milieu confondue. Ah oui, ça, enfin, elle ne concerne pas 100% de la jeunesse. Enfin, on n'est pas dans une vision totalitaire.
Elle touche toutes les classes sociales.
Bien sûr,
c'est un individualisme forcené.
Tout à fait, elle touche toutes les classes sociales, qu'on aille des milieux populaires aux catégories socio-professionnelles.
Mais par quoi elle s'illustre, selon vous, en tant qu'enseignante?
Les élèves vous le disent, c'est aussi simple que ça.
Elle s'illustre justement voilà, par le fait que l'individu, le moi, passe avant le nous. C'est-à-dire que la règle que vous vous fixez, la loi que vous vous faites vous-même, c'est-à-dire vous êtes votre propre maître, et c'est un discours que l'école tient en permanence depuis la maternelle, l'autonomie de l'enfant, c'est de l'enfant que tout doit partir. Non, les savoirs ne partent pas de l'enfant. C'est-à-dire que bien entendu, quand vous êtes enseignant, vous devez voir où en est l'enfant dans ses capacités d'apprentissage, mais vous n'en êtes pas à vous dire, je vais partir de ce que l'enfant sait.
Oui, mais quels sont les symptômes de la génération j'ai le droit?
Ce sont des enfants qui ont énormément de mal à se soumettre à la contrainte sociale. L'école, c'est le premier lieu de la contrainte sociale, la règle commune. Donc déjà, on va négocier en permanence la règle commune parce que mon droit passe avant le droit commun. Moi, je suis pas.
Vous
contre...
le ressentez aussi, vous, Alimata Fonsana?
Moi, je dirais qu'au niveau des élèves, je dirais qu'ils sont plutôt victimes de ce système. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de ce système.
Ah, mais tout à fait.
Ils en sont victimes. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains élèves qui vont revendiquer certaines choses, mais moi, je pense que ce sont des choses qu'on peut déconstruire facilement. Parce qu'il suffit de gratter un petit peu et vous vous rendez compte que ce n'est pas solide.
Tout à fait.
Mais quand ils vous disent « j'ai le droit », vous disiez à l'instant, oui, ils le disent,
ah, oui,
tout
mais
simplement.
C'est vrai qu'il y a des élèves qui osent. Moi, je me souviens, j'avais donné un travail à faire en français à des élèves de 5e. Et moi, je vérifiais à chaque fois que les devoirs sont faits. Et donc, cette jeune fille, je regarde et elle ne l'a pas fait. Je lui dis, pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle m'a dit, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de faire mes devoirs. Alors moi, j'ai halluciné. Qu'elle ose me dire cela. J'ai pas eu le temps de faire mes devoirs. Et après, quand j'ai essayé de gratter un petit peu, il s'avère que les parents aussi soutenaient cet enfant en se disant, elle n'a pas eu le temps de faire ses devoirs. Et donc, la priorité n'est plus mise là-dessus. Et donc, cet enfant, certes, elle
donc
aurait
elle
pas
a
dû
le droit,
me dire ça.
Elle a le droit de vous dire qu'elle n'a pas eu le temps.
Exactement. Elle a le droit de me dire cela. Elle a le droit de dire que... elle peut remettre en cause le savoir, c'est ce que vous dites aussi.
Elle a le droit d'avoir mieux à faire que de faire ses devoirs.
Exactement. Et parfois, elle remet en cause le savoir. Moi, ce qui m'a frappée, c'était ça.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je reviens sur ce que disait tout à l'heure Alimata, la question de l'engagement parental. Moi, dans mes 20 ans de carrière, j'ai croisé beaucoup de familles issues de l'immigration qui venaient d'arriver, parfois dans des situations familiales très compliquées, qui avaient quitté par exemple l'Algérie ou qui avaient quitté des pays d'Afrique subsaharienne, qui arrivaient en France, ou aussi je pense à des familles du sous-continent indien qui ne parlaient vraiment pas du tout le français, ou très mal le français, et qui avait donc beaucoup de mal, justement, à être des partenaires. Mais il y avait un tel engagement parental. Peu importe qu'on ne savait pas comprendre le fond de la leçon, moi, j'avais un papa qui était d'origine pakistanaise. Tous les soirs, quand son enfant rentrait, il lui disait « ouvre ton cahier », dans sa langue, hein. Et dès qu'il y avait une rature, il lui arrachait la page. Il lui disait « je ne sais pas ce qu'il y a écrit parce que je ne sais pas lire le français, mais il y a une rature, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu recommences. » Et en fait, les enfants, et ce gamin, on a réussi à l'orienter, il est allé en seconde à Louis-le-Grand. C'était
donc
un gamin.
Une question de présence.
Voilà, les parents l'avaient inscrit, par exemple, au club d'échecs. Je ne veux pas être méchante et caricaturale sur le foot, mais effectivement, plutôt qu'inscrire son gamin quand on est en cité, plutôt que l'inscrire au club de foot, c'est peut-être une bonne idée de l'inscrire au club d'échecs.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est très bien de faire du sport.
Tout à fait, sauf qu'on sait aujourd'hui que dans certaines banlieues, le club de foot, ça vous tire plutôt vers le bas, voire
oui,
pour certains cas, ça vous tire vers le salafisme.
Mais l'accessibilité, est-ce que dans certains endroits, on leur propose aussi des...
Oh, quand même, dans certaines...
Pas partout, hein.
Pas partout, mais vous avez des maisons de... Mais c'est justement là...
Dans les maisons de quartier.
Les maisons de quartier, il faudrait favoriser des choses un peu plus intéressantes,
oui, il
que le rap,
favoriser...
l'islam, voilà.
Oui, génération, mais par contre,
j'ai
il faut donc changer le personnel.
Génération, parce que... génération, j'ai le droit. Est-ce que cette génération existe chez vous, les voisins? Et surtout, est-ce qu'elle est le signe d'une crise de l'autorité, comme semble nous le dire Barbara Lefebvre? En même temps, crise de l'autorité, on en parle depuis des siècles.
Depuis 50 ans, oui.
Alors, bien plus, soit Aristote. Alors, quelle responsabilité des parents, de l'école et de la société? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Now that same love lives here inside of me. And it's a pure love. Yeah, it's a pure love. Yeah, there's a symmetry. There's a continuity. A time before experience. A time that was my innocence. Jamie Lidl chez 7 milliards de voisins sur RFI. 7 milliards de voisins, aujourd'hui, c'est plutôt la génération J'ai le droit. Alors, est-elle présente partout sur la planète? Touche-t-elle tous les milieux, toutes les familles? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 hein, 84 22 71 71. Barbara Lefebvre, vous êtes enseignante avec vous, Alimata Fofana. Barbara Lefebvre, vous publiez Génération J'ai le droit. Pour vous, les parents sont à mettre en cause dans la production de cette génération J'ai le droit?
Oui, alors en particulier en France, on va dire depuis les 30 Glorieuses, les parents participent eux-mêmes de la génération J'ai le droit. C'est pour ça que je disais que le titre du livre, on aurait dû mettre un S, parce que la génération J'ai le droit, c'est pas une génération spontanée.
C'était l'enfant roi.
Voilà, mais c'est pas une génération spontanée. Mais c'est très important de comprendre aussi qu'on est dans une évolution sociétale majeure. Dans les années 60, quand on faisait des enquêtes auprès des femmes qui venaient d'avoir un enfant, vous en aviez 40% seulement qui avaient souhaité cette grossesse. Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 90% des femmes qui, d'abord, font des enfants plus tard, mais qui désirent cet enfant. Et la question du désir d'enfant est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant, c'est plus, dans la cellule familiale, c'est plus, on va dire en quelque sorte, le couple parental ou le parent qui constitue la colonne vertébrale de la famille. C'est, et donc, en quelque sorte, la loi familiale qui constitue la famille, c'est l'enfant. Le désir de l'enfant, l'envie de l'enfant est tout au service de le développement de son autonomie. Et si vous regardez, l'école, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a mis à partir de 1989, la réforme Jospin? On a mis l'élève au centre de l'école. C'est-à-dire qu'on n'a plus mis les savoirs au centre de l'école, on a mis l'enfant. Et le problème, l'élève. Et si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien que le comportement du jeune, le comportement des adolescents, notamment sur les questions de violence, il dépend aussi en grande partie du fonctionnement affectif et éducatif des parents. Il ne faut jamais oublier que les premiers éducateurs de l'enfant, ce sont les parents. Et qu'il y a une grande partie de l'équilibre psychique qui va permettre le développement de l'enfant et qui va lui permettre aussi l'entrée dans les apprentissages, qui se fait dans la toute petite enfance. Les pédopsychiatres aujourd'hui, et notamment le développement des neurosciences, etc., ont montré qu'entre 6 mois et 24 mois, c'est une période charnière dans la construction psychique de l'enfant qui va lui permettre justement de se développer comme un individu sécure pour entrer dans les apprentissages. Quand vous voyez aujourd'hui des gamins qui arrivent en maternelle, qui sont absolument incapables d'entrer dans les apprentissages parce qu'ils sont complètement débordés émotionnellement et je dirais psychiquement, parce qu'en réalité il y a eu des problématiques de négligence ou de carence éducative dans la petite enfance, le problème il est aussi là aujourd'hui. On a en France une véritable difficulté à prendre en charge les problématiques de la petite enfance qui se répercutent sur l'école et on accuse l'école. Mais il faudrait aller regarder bien en amont et voir ce qui se passe dans la petite enfance.
Alimata Fofana, cette génération J'ai le droit, est-ce que vous la constatez aussi dans des familles où précisément on n'a pas décidé du nombre d'enfants qu'on allait avoir?
Mais je dirais, ça c'est différent. Moi, j'ai aussi rencontré des élèves comme cela. Et je dirais que il y a certains élèves où à la maison, vous vous rendez compte que c'est très très strict. Ils ont quasiment le droit de rien faire. Et quand ils arrivent à l'école,
c'est votre cas.
Oui et non. Mais je voulais outrepasser ma personne. Oui. Mais et quand ils arrivent à l'école, ils arrivent dans un endroit où il y a un fonctionnement qui est totalement différent. Et moi, ce qui m'a frappé cette année quand j'enseignais en REP+, c'est qu'à la maison, souvent, ça fonctionne avec des coups.
Le dressage.
Voilà, exactement. On les frappe et le stop, c'est un coup. Et donc, quand ils arrivent à l'école, ils sont face à des enseignants qui fonctionnent différemment. Nous ne frappons pas les élèves. Il y a des sanctions. Et souvent, ce qui m'a frappé, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de limite tant qu'il n'y a pas un coup qui tombe.
Et comment faire cohabiter ces deux systèmes? C'est pas simple.
Moi, j'ai une question, s'il vous plaît.
Alimata Fofana, vous restez avec nous parce qu'on va rendre l'antenne pour le flash. Mais on se retrouve juste après, dans un peu plus de 3 minutes. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines, si cette génération J'ai le droit s'exprime et prend racine également dans votre société, dans votre pays, au 33 1 84 22 71 71. Donc, des jeunes qui refusent une forme d'autorité et surtout réclament de plus en plus de droits.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On est en compagnie de Barbara Lefebvre, professeure dans le secondaire en France. Vous publiez Génération, j'ai le droit. Alimata Fofana, vous êtes également enseignante de lettres en région parisienne. Vous avez publié Mariama, l'écorché vive. Dialogue entre deux enseignantes, deux générations, aucune d'ailleurs issue de la génération j'ai le droit. Et vous évoquiez Alimata Fofana, finalement, notamment pour les familles, enfin surtout pour les familles issues de l'immigration dans les zones d'éducation prioritaire, maintenant qu'on appelle les REP, parfois des élèves qui sont confrontés à deux systèmes, on a été interrompu par le flash, mais deux systèmes un peu antagonistes, hein, où très 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 forte autorité parentale et violence à la maison, et puis à l'école, ça se passe pas du tout de la même façon.
À l'école, ils ont le sentiment que c'est la totale liberté.
Et souvent, open bar, comme ils disent.
Voilà, open bar, et cette liberté, ils ne savent pas quoi en faire. C'est ça qui est intéressant derrière. À la maison, tout est régi. Et à l'école, c'est une totale liberté. Pourquoi ils perçoivent cela comme une totale liberté? C'est dans le fait que ça fonctionne autrement. Les règles sont différentes.
Vous posez une question à Barbara
Lefebvre. J'avais une question à poser à Barbara concernant les parents. Alors, il y a des parents qui sont même trop présents. Il y en a qui ne sont pas assez. Et dans votre livre, vous parlez de ces mères de famille qui souhaitent accompagner leur enfant lors de sorties scolaires et qui portent le voile. Et je crois que vous êtes contre cela. Et je me suis dit, c'est assez en contradiction dans le fait qu'on souhaite que les parents s'investissent de plus en plus et que là, on pourrait dire à une maman, vous ne pouvez pas venir parce que vous portez le voile, en sachant que dans certains endroits, la majorité des femmes portent le voile. Alors, je voulais avoir votre...
Je vais répondre parce que c'est un sujet très important et qui me tient à cœur depuis longtemps. Mais d'abord, je voulais juste dire, effectivement, la question de l'engagement parental est très important et le conflit de loyauté que vivent certains enfants, c'est ce que vous avez évoqué, Alimata, sur le fait qu'à la maison, il y a un certain système éducatif et qui est en contradiction avec l'école. Et
On est d'accord que vous ne dites pas que la réponse à la génération j'ai le droit, c'est leur filer
pas
des claques. On est bien d'accord.
Surtout pas. Je pense que justement, il y a trois besoins fondamentaux pour le développement d'un enfant sécure et qui va pouvoir entrer dans les apprentissages. D'abord, c'est bien entendu répondre à ses besoins physiologiques, répondre à son besoin de sécurité affective, parce que l'attachement, c'est très important. Il y a eu une étude qui a été menée, notamment sur ça, travailler avec des femmes qui étaient pour 80% des femmes issues de l'immigration qui avaient des difficultés d'attachement avec l'enfant et elles avaient été prises en charge dès le dernier trimestre de grossesse. Parce que c'est très important de s'attacher à son enfant, le jeu avec l'enfant, etc. Mais il y a un troisième élément très important qui est effectivement de rencontrer des limites éducatives mais qui doivent se faire dans une forme de sécurité et d'affection. Et ça n'est absolument pas le dressage. Et je crois qu'effectivement, on a un problème aujourd'hui parce que le conflit de loyauté, l'enfant, il va forcément se tourner vers les parents. Je veux dire, son modèle de base dès la petite enfance,
parce que c'est normal.
On est aussi des petits animaux. L'enfant, il s'attache d'abord à sa famille.
Mais ensuite, il va être formaté par le quartier, par le milieu.
Mais justement,
il aura moins de poids.
On peut pas dissocier les deux.
C'est ça.
Et l'environnement joue énormément.
L'environnement joue. Et le problème aussi, c'est que dans certaines familles, et notamment les familles issues de l'immigration africaine, le modèle de la famille, c'est une famille assez extensible. Et où justement, l'individu a une existence assez compliquée. Or, nous vivons dans la société occidentale, dans une société qui met l'individu au-dessus de sa singularité.
C'est une contradiction.
Or, en Afrique, vous avez grandi avec le « nous » à la maison
et le jeu
à l'école.
Exactement, c'est-à-dire qu'à l'école, on met en avant l'individu et à la maison, vous n'existez quasiment pas.
Exactement, et c'est ça le problème. Mais ce n'est pas seulement à l'école, c'est notre société occidentale depuis le XVIe siècle. C'est depuis Montaigne, depuis le XVIe siècle. La reconnaissance que l'individu a une singularité irréductible, et c'est ça aussi la grandeur de la civilisation occidentale à mes yeux, c'est le fait que l'individu n'est pas réductible à son groupe, n'est pas réductible à sa naissance, n'est pas réductible à sa religion naissance et pas réductible à sa couleur de peau. Il peut exister par lui-même. Or, quand vous vivez dans une structure familiale où vous êtes sans cesse ramené à vous êtes le frère d'eux, l'oncle d'eux, la tante d'eux, et que de ce fait, vous êtes dans une forte, excusez-moi de le dire, mais un peu un panier de crabes, où finalement, quand vous voulez exister en tant qu'individu, vous êtes tout le temps rattrapé par le fond, là, ça pose un problème.
Maintenant, oui, mais d'un autre côté, la société aussi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, les pointes aussi.
Exactement.
En étant, oui, c'est-à-dire que c'est les deux. D'un
ça,
côté, il y a la maison,
très compliqué.
Et au niveau de la société, on les pointe en tant que musulmans ou en tant que avec leur couleur de peau.
C'est tout
raison
le
pour laquelle c'est très compliqué de se construire en tant qu'individu quand c'est... on est déchiré.
Et c'est pour ça que je vais maintenant justement répondre à votre question sur le voile parce que on touche là à la question
les mères de famille
de
qui
la laïcité
à l'école,
voilà, et du modèle laïque français qui est très particulier.
Leur enfant.
Alors cette question là,
je ne crois pas que ça concerne les mères de famille.
Justement, faire un débat sur le voile et sur la laïcité. On est sur la génération j'ai le droit, mais juste répondez sur cette question-là.
Parce que c'est très important et je l'ai l'évoque dans mon livre parce que ça, ça a un sens. La question de la laïcité à l'école, l'école française a un modèle laïque très particulier. Il est évident que quand vous recevez des parents, quand les parents sont élus au conseil d'administration ou au conseil d'école, si la maman porte le hijab, le voile islamique, elle peut le porter parce qu'elle a été élue en tant que parent d'élève. Mmh. Lorsque la maman vient chercher son enfant, elle porte le voile, aucun problème. Elle peut même rentrer dans l'école avec son voile. Moi, j'ai reçu des mamans d'élèves qui venaient chercher le bulletin de leur élève en tant que prof principal, elle portait le voile, ça ne me pose aucun problème. Oui. En revanche...
Ça ne tombe pas sous le coup de la loi de 2004
sur la société en France n'est pas laïque. C'est l'État qui est neutre et c'est l'école publique qui est neutre. C'est-à-dire la liberté de conscience et la reconnaissance d'un espace dans lequel le pouvoir religieux n'a pas sa place dans l'enseignement des savoirs. Pourquoi le problème des mères voilées, ça pose un problème? D'abord, premièrement, parce que le hijab, le voile islamique, est un signe politique. D'accord, premièrement, et c'est un signe prosélyte. Après, on peut avoir chacun son point de vue sur le voile islamique. Pour moi, c'est un signe politique de soumission de la femme. Ça, c'est un premier point.
C'est mon point de vue.
Deuxième point, lorsque un parent accompagne une sortie scolaire, la sortie scolaire, c'est la classe hors les murs.
Oui.
C'est pas une promenade.
Oui,
c'est, on fait la classe en dehors des murs. Oui. Eh bien, on doit protéger la liberté de conscience des élèves. L'enseignant est neutre dans ses enseignements.
Parce qu'il
c'est comme s'il participait à la classe. Est-ce que vous accepteriez que une maman voilée, c'est-à-dire qui porte un signe religieux ostentatoire, donc qui exprime sa religion,
c'est ce qu'on appelle la liberté individuelle. C'est la liberté individuelle.
On est en complète contradiction.
Si cette femme souhaite porter le voile, elle a le droit.
Vous scolarisez votre enfant dans une école publique, ça veut dire que vous souhaitez qu'il lui soit donné un enseignement qui soit neutre du point de vue religieux. Qui soit neutre du point de vue religieux et politique. Vous n'acceptez pas qu'un enseignant exprime des idées sur ses propres opinions politiques et religieuses vis-à-vis de votre enfant. C'est pour ça que vous le mettez à l'école publique et pas à l'école privée. Je n'accepte donc pas qu'une maman voilée qui exhibe sa religion et pour moi-même son message politique, s'exprime dans le cadre d'activités pédagogiques. Or, les sorties scolaires sont des activités pédagogiques.
Les
parents accompagnateurs bénéficient de l'assurance de l'éducation nationale.
Vous n'êtes pas d'accord, mais attendez, on va quand même avancer. On a bien un exemple que cette génération, j'ai le droit, en fait, elle se déporte aussi largement sur les parents qui disent à leurs enfants, mais oui, tu dois contester, tu as des droits, etc. Et donc là, on était sur un exemple, j'ai le droit de participer à une sortie scolaire.
Ça dévie aussi dans des élèves qui nous expliquent.
Mais après, il ne faudra pas se plaindre si les parents ne participent plus.
Mais ils participent très bien. Vous m'expliquez alors pourquoi tout d'un coup, comme par hasard, ont fleuri des associations de mères voilées, c'est-à-dire qu'elles ont réussi.
Des associations de mères voilées. Alors
en 93, elles se sont formées en associations comme par hasard liées à l'UOIF, au collectif contre l'islamophobie en France, et qu'en réalité, c'est un véritable militantisme au service des frères musulmans et du salafisme.
Sur cette association, je...
Barbara Lefebvre, cette génération, j'ai le droit. Que dans certains cas évolue en zone de non-droit, pour ne pas dire en quartier sensible, parce que c'est ça que vous voulez dire dans votre livre, vous dites que c'est un cocktail explosif qui découlerait, pour vous, à la fois du consumérisme occidental et du communautarisme. Mais précisément, dans les communautés, cette génération « j'ai le droit » n'a pas le droit d'existence. Est-ce que ça ne semble pas paradoxal ?
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que favoriser cette génération « j'ai le droit », c'est-à-dire la reconnaissance de mes droits particuliers qui prévalent sur les droits collectifs, sur le bien commun, ça sert deux courants, deux visions de la société. La vision ultralibérale qui effectivement est dans « laissons tout passer » parce que ce qui compte finalement c'est des consommateurs, c'est le consumérisme, la société de consommation. Et ça favorise le discours du communautarisme, puisqu'effectivement, qu'est-ce que c'est le discours du communautarisme religieux en particulier? C'est de dire « mes droits en tant qu'appartenant à telle religion » passe au-dessus des lois communes.
Donc
en
fait,
je dis que la
radicalisation de certains jeunes qui se définissent maintenant d'abord comme musulmans avant d'être français, c'est aussi beaucoup une recherche d'une appartenance collective, d'un nous justement.
Le problème, c'est bien que l'école de la République et que la France, en règle générale, n'arrive plus à faire du commun.
À produire du nous.
Et pourquoi elle ne fait plus du commun? Parce qu'elle a renoncé à faire en sorte de transmettre une culture commune. Or, pour moi, et on va peut-être y revenir
donc,
là-dessus...
D'où l'intérêt de remettre la chorale à l'ordre du jour, comme
l'a
fait Jean-Michel
Blanc. Non, ce qu'il faut remettre au cœur de notre enseignement, c'est la langue française et la littérature française. Et ma collègue est professeure de français. La littérature, La littérature, c'est ce qui vous permet de vous construire. Alors, et d'entrer dans un universel. Or, aujourd'hui, oui, on a des élèves qui ne sont plus capables de lire Victor Hugo, Flaubert ou Balzac. C'est ça, le drame.
D'abord, je voudrais revenir à votre parcours, Alimata Fofana. Avant, vous allez bien sûr nous parler de vous en tant qu'enseignante, mais comment vous, vous vous êtes construite dans une culture scolaire, ayant grandi dans une famille où on ne parlait pas français à la maison. C'était d'ailleurs c'était un choix, c'est ça, délibéré. Hein. Comment vous vous êtes construite par rapport à l'école, dans l'école, contre l'école, avec la bienveillance des enseignants, pas forcément?
Je dirais dans un premier temps, moi j'ai compris pas trop tard que le seul moyen de m'en sortir c'était l'école. Et je dis souvent, moi j'ai grandi avec autour de moi que des contre-exemples. J'ai vu ce que je ne voulais pas devenir. Et j'ai aussi eu des enseignants, mon livre, je rends hommage à deux enseignantes que j'ai eues au collège, un professeur d'histoire-géographie et professeur de français. Elles m'ont ouvert à un autre monde. Et donc, moi, j'ai eu aussi une très, très grande passion pour la lecture. Moi, je me souviens encore, j'étais encore au collège, je passais mes après-midi à la bibliothèque municipale pour lire. Et c'est ce que disait Barbara précédemment.
Vous passiez vos après-midi à la bibliothèque municipale pour lire, ça n'a pas empêché le corps professoral de vous orienter assez précocement vers des voies professionnelles
On les appelait les conseillères de désorientation. Là-dessus, oui, mais je dirais que Moi, je me souviens encore, il y a des enseignants qui m'ont dit, je me souviens à un moment, je voulais être attachée de presse. Il y avait un prof qui m'a dit, il a ri, vous y arriverez jamais. Sauf que quand on me dit cela, pour moi, c'est un moteur. Et quelques années après, j'ai été le voir en lui disant, vous voyez, il me dit, non, j'ai jamais dit ça. Je dis, si, pour moi, ça a été un moteur. Pour d'autres, ça les a totalement anéantis. Il y en a certains qui ont arrêté les études. Moi, j'ai des filles avec qui j'étais au collège ou au lycée qui ont arrêté leurs études parce que, on les a mal orientées, on leur a dit des choses qui les ont blessées et elles n'ont pas été en mesure de passer outre. Je dirais que moi, j'ai eu la chance, d'avoir assez de caractère pour me dire que j'y arriverai coûte que coûte. Et aussi, j'ai développé une passion pour la littérature. C'est ce que vous dites, dans votre livre, dans le sens où, au début, ça n'a pas été facile. J'ai dû beaucoup travailler pour arriver à Victor Hugo. Moi, je pars du principe que c'est à moi d'aller vers Victor Hugo.
Pour comprendre déjà, parce que c'est quand même pas simple.
Pour comprendre, parce qu'il y a un travail sur la langue, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour comprendre et pour apprécier. Avant d'apprécier, il faut comprendre ce que dit l'auteur, et je pense que c'est à nous d'aller vers l'auteur, et c'est pas à l'auteur de descendre à nous.
Et l'école dans tout ça?
L'école, elle est censée faire cela, elle est censée transmettre des savoirs. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas eu l'école pour me montrer Victor Hugo, Balzac, mais qui m'aurait montré ces auteurs-là? Là est toute la question.
Et c'est en ça qu'Alimata a tout à fait raison. Et c'est pourquoi il y a un espoir avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il veut remettre au goût du jour l'enseignement explicite, c'est-à-dire de faire de nouveau de l'enseignant le pédagogue, c'est-à-dire celui qui guide l'enfant. Et celui qui guide l'enfant, excusez-moi, mais il n'est pas derrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas à dire aux élèves « Allez, voilà, je vous donne des textes, débrouillez-vous. Et puis quand vous avez besoin de moi, vous me demandez. » Non, le maître n'est pas un animateur, le maître c'est un guide. C'est-à-dire que, il ne peut plus être au-dessus, puisqu'il ne peut plus être dans une position hiérarchique. Très bien.
On reviendra pas à un enseignement vertical quand en même temps, tous les élèves sont sur leur smartphone et font des recherches parallèlement par eux-mêmes.
L'enseignant doit être devant. C'est celui qui guide, il montre la route, il montre la voie. Et quand vous entrez, vous ne pouvez pas entrer dans la littérature, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, mais a fortiori quand en plus vous n'avez pas cet environnement culturel dans votre famille, vous ne pouvez pas entrer dans la littérature sans un accompagnement explicite du maître. Et il faut aujourd'hui arrêter d'enseigner la littérature comme on le fait, d'une façon technique, froide, qui ne donne pas aux enfants l'amour de la littérature.
Mais c'est exactement ça, Barbara. Je vais poursuivre là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on travaille des textes littéraires, il ne faut pas oublier que les textes sont vivants. On parle d'humains. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu ça avec certains collègues quand on travaille les premières pour le bac de français. Il y a une déshumanisation qui est faite parce qu'on est tellement dans l'aspect technique que le texte perd de son sens.
Exactement.
Alors que le propre de la littérature, c'est le sens qu'il y a derrière tout ça. Et je dis souvent
quel
à mes élèves,
la génération, non, j'ai mais, le
non,
droit.
Non, si, parce que comment vous existez en tant qu'individu et vous êtes capable d'exister dans ce que j'appelle l'individualisme civique, c'est-à-dire moi, je suis un individu singulier. Alimata le montre très bien. Elle est un individu singulier qui a su elle-même trouver en elle les ressources pour aller vers autre chose d'inconnu. Mais elle fait ça au service de la société dans laquelle elle vit. Elle ne demande pas la à la société de la servir. Et c'est ça, de la servir et non pas de la servir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'individualisme civique, c'est quelque chose qu'on doit valoriser. L'individualisme tyrannique, c'est quelque chose qu'on doit combattre. Et justement, la littérature, c'est ce qui vous permet d'entrer dans la connaissance de vous-même pour mieux comprendre le monde et être mieux au service du monde.
Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On parle de cette génération « J'ai le droit ». Je vous lirai le message de Rodrigue qui nous écrit de Yamoussoukro dans quelques instants. De Rodrigue qui nous écrit Yamoussoukro sur cette jeunesse prête à en découdre avec toute autorité puisqu'on parle de cette génération j'ai le droit et qui est donc défiante par rapport au système scolaire, à l'autorité. En Côte d'Ivoire, nous dit Rodrigue, c'est dû à quatre facteurs. D'abord, un système éducatif inadapté, orienté en fonction des critères des bailleurs de fonds. Je précise quand même que l'essentiel du financement de l'école en Côte d'Ivoire vient de l'État ivoirien et pas des bailleurs de fonds. La démission de la plupart des parents, soit parce qu'ils sont trop occupés à courir après la réussite ou qu'ils sont eux-mêmes trop jeunes pour être parents. Un autre facteur, nous dit Rodrigue, c'est les réseaux sociaux. On n'a pas vraiment parlé, les telenovelas qui bombardent nos enfants d'images, de défiance avec la hiérarchie à la maison et puis des droits des enfants sans leur parler des devoirs. Allusion, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias et tant mieux d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'enfant, la Déclaration internationale des droits de l'enfant 1989 qui donne le droit aux enfants d'être respectés dans leur intégrité physique et intellectuelle. Et puis Rodrigue aussi évoque un quatrième facteur, et après vous pourrez commenter mesdames, les crises répétées depuis 2002 qui ont enseigné à cette génération en Côte d'Ivoire qu'il faut s'exprimer par la violence et les armes. Et là évidemment on est dans un contexte différent, de la France. Alimata Fofana sur ce qui vient d'être évoqué, sur notamment le rôle des réseaux sociaux, d'Internet, des images qui racontent aussi des histoires de défiance et avec raison parfois.
C'est vrai que les réseaux sociaux, l'image quoi, a pris une place très très importante dans la vie des élèves, même dans notre propre vie, hein, pas forcément que des élèves. Et c'est vrai que c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'on a tendance à croire que le savoir est beaucoup plus accessible, alors que c'est l'inverse, parce qu'ils reçoivent un tas d'informations et souvent ils ne savent pas gérer tout cela. Et donc, c'est très compliqué pour eux. Je pense.
On leur fait croire aussi du coup que l'accès à une exigence scolaire va être simple alors qu'elle ne l'est pas, Barbara Lefebvre. Vous dénoncez aussi une forme d'hypocrisie, d'illusion dans laquelle on plonge les élèves qui ont du mal ?
Bah oui, c'est notamment lié là à la question de la structure de l'éducation, parce qu'on a eu des réformes qui ont finalement contribué à étaler les apprentissages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait de très grosses difficultés avec un retard qui devenait de plus en plus présent, on connaît tous les classements PISA qui mettent la France dans des
en bas du classement. Internationales, voilà, sur aussi bien la en capacité français, à lire, à écrire.
Oui, mais là dernièrement, il y a eu le classement TIMSS sur les mathématiques. On est quasiment dans les derniers, donc c'est pas glorieux. Pour une école qui met autant de moyens financiers financier, on voit bien le résultat, il est quand même assez catastrophique. C'est pour ça que je ne suis pas une décliniste, je suis juste une réaliste.
Mais assez catastrophique pour une petite partie, hein, parce que pour la majorité, c'est, je ne crois
non,
pas
mais,
que ce soit
oui, mais je
aussi...
Pense que la difficulté quand même aujourd'hui, on le voit bien, c'est aussi une difficulté à décrypter le monde. Et les réseaux sociaux, comme le dit Alimata... envoie des tonnes d'informations, mais je suis assez étonnée. Par exemple, on s'intéresse beaucoup à la question de du complotisme et de la capacité qu'on
les... J'allais vous poser la question, voilà. Justement. J'ai le droit, c'est j'ai le droit de penser que tout est complot au nom de la liberté de penser.
Oui, mais parce que j'ai le droit surtout de... On me laisse penser que j'ai le droit de croire que tout se vaut. Mais il y a une grande différence entre les savoirs et la croyance. Et justement,
oui,
l'école, c'est le lieu des savoirs, c'est pas le lieu du croire. Mmh. Alors, je peux bien croire que la Terre est plate. En l'occurrence, à l'école, on peut me prouver que la Terre est ronde. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir que j'arrête de clamer partout, notamment sur les réseaux sociaux, que la Terre est plate. Donc, si vous voulez, c'est comme la question du 11 septembre, etc. Cette espèce de délires complotistes. En même temps, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Quand quelqu'un est dans un délire complotiste, on en connaît les délires complotistes depuis le Moyen-Âge, vous pourrez pas faire entendre raison à des gens qui sont dans des formes d'aveuglement et pour certains d'ailleurs instrumentalisés derrière par des objectifs totalitaires et politiques. Mais là-dessus, le problème des réseaux sociaux, pour moi, c'est encore une fois regarder par le petit bout de la lorgnette. Les réseaux sociaux, c'est jamais rien d'autre qu'un moyen. Ce qu'il faut, c'est donner aux élèves la capacité, aux jeunes, la capacité de décrypter et de s'insérer dans les réseaux sociaux pour en faire des outils de savoir, de diffusion de l'information, des outils de démocratisation. Oui. Parce qu'en Afrique, par exemple, les réseaux sociaux ont quand même permis de passer par-dessus les Sassou Nguesso et les Omar Bongo et les Joseph Kabila. Et ça, c'est très bien.
Oui. Mais moi, juste une chose, quand vous parlez d'illusion par rapport à la génération, j'ai le droit, moi, je parle des parents, là. Quand ils vont mettre en avant leur intérêt personnel. Quand on parle d'illusion, c'est parce que le bac...
Vous voulez dire les parents qui viennent vous voir, par exemple,
ou d'autres. Quand j'ai enseigné en lycée, dans un bon lycée dans le 91, les parents qui vont mettre en avant l'intérêt de leur propre enfant, et souvent, ils comprennent beaucoup mieux le système. Ils comprennent mieux le système, ils sont en mesure de détourner le système. Serait-ce avec la carte scolaire, vous savez, ceux qui détournent le plus... La carte scolaire sont les profs et les journalistes.
Exactement.
Ce n'est pas anodin. Et donc, on leur fait croire que le bac, c'est facile. C'est ce qu'on dit, 80 ou 85% des élèves ont le bac. Mais à côté de cela, il va y avoir un système qui fait que pour rentrer dans certaines écoles, on va leur faire passer des tests. Et donc, ceux à qui on a offert le bac, l'année qui va suivre, vont se prendre un mur. Parce qu'ils vont se rendre compte du décalage qu'il y a entre ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a transmis au lycée, et ce qu'on va exiger d'eux quand ils vont aller...
Notamment l'échec en licence à l'université.
C'est pour ça qu'il y a une certaine
hypocrisie. Et même dans les grandes écoles, après on va se plaindre qu'il n'y ait pas d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles.
Il y a une énorme hypocrisie aujourd'hui à critiquer la question de la sélection. Parce qu'on vit justement dans une société qui passe son temps à sélectionner. D'ailleurs, on se pâme devant les émissions de télé-réalité qui ne sont rien d'autre que des sélections permanentes. Et on ne veut pas que l'école...
Très populaire pour la génération, j'ai le droit d'ailleurs.
Tout à fait, alors que l'école...
Mais la télé-réalité est très populaire.
L'école, en réalité, elle n'est pas là pour sélectionner.
Ces jeux sur la sélection, ils sont très populaires chez les jeunes.
Oui.
Qui disent en même temps tout le temps j'ai le droit.
Oui,
ça
mais
peut
parce
sembler
que justement,
paradoxal.
La sélection dans les émissions de télé-réalité, etc., elle est censée se faire sur le talent, soi-disant.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'ils approuvent.
Alors que le talent, c'est très subjectif. Hein. Certains, on ne sait pas pourquoi ils sont sélectionnés parce qu'ils chantent quand même comme des casseroles.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Alimata Fofana, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre regard sur l'école et est-ce que ce regard a changé depuis que vous êtes passé de l'autre côté?
Oui, je pense qu'il a changé dans le sens où quand j'étais plus jeune, pourtant j'ai pas 40 ans, mais bon, quand j'étais plus jeune, j'avais le sentiment quand même qu'il y avait un respect. Moi, je regardais l'enseignant comme étant celui qui détenait le savoir. À l'heure actuelle,
est-ce que vous regardiez aussi l'école comme un lieu de discrimination pour l'élève d'origine sénégalaise que vous étiez ou pas ?
On peut pas dire, on peut pas parler de lieu de discrimination à l'école. La discrimination, elle arrive plus tard, quand on se retrouve, face à la société, quand on cherche un travail, quand on cherche un emploi. Là, oui, il y a la discrimination. Mais je n'irai pas avec les enseignants directement. Non, moi, je ne l'ai jamais vécu. Et je dirais qu'à mon époque, je disais qu'il y avait vraiment le respect dû à l'enseignant et je pensais que le seul moyen de m'en sortir, c'était l'école. La génération J'ai le droit ont tendance à croire que l'école ne peut pas les aider, ne peut pas les sortir de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est ça qui est terrible. Pour eux, l'école ne va pas les aider à avoir un métier ou à avoir quoi que ce soit. Elle ne va pas améliorer leur sort. Pour eux, l'école ne sert plus à cela. L'école, ils y vont parce qu'il faut y aller, quoi. Alors, parfois, ils viennent sans sac. Ils viennent, ils s'assoient. Ah oui, moi, j'ai des élèves qui viennent sans sac. J'en ai certains même qui crachent en cours. Et après, quand vous les reprenez, parce que quand on met l'accent sur les parents et sur les enfants, mais quand vous avez des directeurs d'établissement qui excusent l'inexcusable sous prétexte de pauvreté, là, on peut aussi se poser des questions. C'est-à-dire que d'un autre côté aussi, ils ne sont pas aidés.
Bah non, Est-ce que vous allez rester enseignante, Alimata Fofana, avec cette génération J'ai le droit d'élèves?
Non, alors c'est, franchement, c'est pas lié aux élèves. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas lié aux élèves.
Vous aimez bien, dans le fond, vos élèves?
Ah oui, moi, je les aime bien. Il y a des élèves, je me souviens encore l'année dernière, un élève qui était assez difficile. Mais c'est vrai que je suis assez exigeante. Et moi, je pense que l'exigence que
alors,
j'ai pour eux, c'est le respect que j'ai.
Non, je ne vais pas rester enseignante, mais c'est pas lié aux élèves.
Non, ce n'est pas lié aux élèves, c'est lié au système.
Barbara Lefebvre, vous publiez Génération, j'ai le droit, la faillite de notre éducation. C'est publié chez Albin Michel. Merci à vous d'être venu.
Merci beaucoup.
Et Alimata Fofana, vous avez publié Mariama, l'écorché vive, et c'est publié chez Cartala.
Merci.
Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Quentin Ferral, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique Magazine. Et demain, 7 milliards de voisins. Alors là, on fera toute l'émission sur la réforme du baccalauréat. Cette réforme va a-t-elle profondément changé le système, le lycée, débat avec des experts et un syndicat lycéen qui a le droit de s'exprimer. Voilà, et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission au 33 1 84 22 71 71 dans quelques instants. C'est le journal sur RFI.